Ski. Mondial Sport sur RFI. Olivier Pron.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mondial Sport, au programme de cette demi-heure entièrement consacrée au sport, ça tombe bien, c'est son nom qui l'indique, du foot en Europe, en Espagne et en Angleterre particulièrement, avec des affiches de feu, Real, Atlético ou encore Chelsea-Liverpool. Nous parlerons golf bien sûr, à la veille de la fin de la Ryder Cup, match par équipe Europe contre États-Unis. Ça se passe à Paris et l'Europe caracole en tête. Enfin nous entendrons la judoka Clarisse Agbegnénou, triple championne du monde depuis 8 jours en moins de 63 kilos. Mais c'est bien évidemment par du cyclisme en Afrique que nous allons commencer cette émission, avec une sale journée au Cameroun où l'un des bus qui transportait des coureurs africains ce matin au départ de la quatrième étape du Grand Prix Chantal Biya s'est retourné dans un virage. Bonsoir Frédéric Suto.
Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir Olivier.
Des blessés, beaucoup, mais aucun gravement, heureusement.
Oui, on a évité le pire, hein, vraiment, vous allez l'entendre. Il n'y a pas eu de morts, mais des blessés. 17 en tout, 15 coureurs, un commissaire de course et le chauffeur du bus qui s'est renversé. Alors c'est le bus qui transportait les Rwandais, les Burkinabés, les Ivoiriens, qui a fait une sortie de route dans un virage alors que le véhicule se dirigeait vers la ville de départ de cette quatrième étape, Golbang. Nous sommes en ligne avec notre correspondant au Cameroun, Joël Wadem, qui suit ce Grand Prix Chantal Biya pour nous depuis le début de la semaine. Bonsoir Joël.
Bonsoir Frédéric et bonsoir à tous.
Vous êtes arrivé, Joël, très rapidement sur les lieux de l'accident ce matin. Racontez-nous ce que vous avez vu en arrivant. La scène était assez impressionnante.
Oui, c'est à 10h30 que nous sommes arrivés à 17 km de Mbalmayo. Alors le bus était renversé, les quatre roues en l'air. On avait des débris de vitres partout, du sang sur le goudron, des valises qui se retrouvaient sur le goudron avec des vêtements versés. Et puis les autres bus qui arrivaient, les voyageurs descendaient, étaient en cris, en larmes. Et quand on se renseignait, on disait qu'il y avait beaucoup de morts. Et bon, lorsque nous sommes renseignés auprès des ambulanciers, on nous a indiqué qu'il y avait plutôt de nombreux blessés et pas de morts. Mais il faut noter que la mobilisation s'est faite assez rapidement. Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Mbalmayo, aussi bien par des ambulances que par certains véhicules civils présents.
Donc pas de morts, hein, encore une fois, mais 17 blessés au total tout de même. On va écouter, Joël, quelques réactions que vous avez pu recueillir ce matin. Tout d'abord celle de Damien Tekou, l'ancien coureur camerounais qui est aujourd'hui commissaire de course. Il se trouvait dans le bus qui s'est renversé, Damien Tekou.
À une quinzaine de kilomètres de Mbalmayo, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule à un virage très serré et voulant bagarrer avec le véhicule. On a fait carrément tout, nous on a mis les quatre roues du véhicule en l'air et c'était vraiment la catastrophe parce que moi j'étais assis à l'avant et je me suis retrouvé en train de casser le pare-brise avec la tête et au sol le bus est revenu sur mes jambes. Donc je suis là, j'ai eu des points de suture, je suis en train d'attendre passer des radios et j'espère que ça va aller.
Ouais, un Damien Tekou sous le choc, hein, qui a rejoint Yaoundé dans la journée pour passer des examens. Autre réaction que vous avez pu obtenir, Joël, celle du coureur burkinabé Abdulaziz Nikiema. Il était lui aussi dans le bus et à l'écouter, eh bien, le chauffeur allait beaucoup, beaucoup trop vite.
Il y a un problème au virage. Le chauffeur qui roulait complètement à fond. Et à tout temps, on lui dit de diminuer. Il n'écoute pas. Il a pris le virage à 140 à l'heure. On a pris un premier virage. Heureusement, on n'a pas tombé. Mais à un kilomètre encore de plus, il y a eu un virage qui était vraiment raide. On a raté le virage. Il a essayé de conduire la voiture, mais il n'a pas pu. On a fait le tonneau. Mais on va aller remercier Dieu parce qu'il n'y a pas eu trop de dégâts. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des blessures de cheville. Donc je pense que ça ne serait pas possible qu'on continue la course parce qu'on ne pourra pas tenir. Même si on prend le départ, on ne pourra pas aller loin.
Oui, un virage à 140 km/h, hein, nous dit-il, Abdulaziz Nikiema, le coureur que l'on vient d'entendre. Joël Wadem, les Burkinabés ne prendront donc pas le départ de la dernière étape dimanche.
Oui, Frédéric, les Burkinabés, en raison de la gravité des lésions enregistrées lors de cet accident, ont décidé d'abandonner. Et c'est la même chose pour l'équipe du Rwanda, qui était pourtant assez bien classée. Ces deux équipes sont rentrées à Yaoundé et ne prendront donc pas ce dimanche le départ de la cinquième et dernière étape du Grand Prix Chantal Biya.
Oui, les coureurs burkinabés rwandais sous le choc, avec des blessures, hein, également aux chevilles notamment. Sang Melima Yaoundé, c'est la dernière étape, sans les Rwandais, sans les Burkinabés, mais avec Les Ivoiriens, vous l'avez dit, ici à Cassissé, l'Ivoirien est quatrième du classement général. Il a été touché dans l'accident, mais il devrait être bel et bien là au départ dimanche. Le président de la Fédération camerounaise de cyclisme, Honoré Yossi, qui fait figure d'organisateur de ce Grand Prix, Chantal Biya, a fait le point sur la situation en ce samedi soir.
Après consultation avec les quatre médecins de l'hôpital district de Mbalmayo, nous avons convenu que l'équipe ivoirienne va repartir sur 100 mm pour prendre le départ. Nos amis burkinabé et rwandais ont choisi de repartir sur Yaoundé parce que, disent-ils, ils sont traumatisés. L'étape qui devait avoir lieu entre Ngolban et Mermessala va être neutralisée, c'est-à-dire qu'elle ne va pas compter. Question de ramener un peu du calme, de la sérénité dans le peloton. Selon les informations du Commissaire international, dimanche matin, la dernière étape aura lieu dans les conditions de course normales.
Honoré Kossi, président de la Fédération camerounaise de cyclisme, l'étape de ce samedi a été neutralisée. Cela veut dire que les coureurs qui n'ont pas été impliqués dans l'accident de ce matin, eh bien, sont montés sur leur vélo tout de même pour rallier Meyomé Sala en fin de journée, 50 km parcourus symboliquement. Meyomé Sala qui n'est autre que le village natal du président de la République, Paul Biya, qui est en pleine campagne pour sa réélection. Joël Wadem, demain dimanche, vous le confirmez, la cinquième et dernière étape, elle aura lieu, 170 km, Sangmélima, Yaoundé. Quels sont les enjeux, s'il en reste, après ce qui s'est passé ce matin?
Alors, la cinquième et dernière étape entre Sangmélima et Yaoundé se déroulera bien, avec le maillot jaune sous les épaules du Slovaque Belan Juric. Lui, bon, il n'est pas encore assuré de remporter l'épreuve puisque on a de nombreux compétiteurs à l'instar du Camerounais Clovis Komzam Abesolo qui est à 10 secondes de lui et l'Ivoirien Issé Sissiaka, malgré sa blessure, il est quatrième à 13 secondes. Donc, c'est pas encore gagné. On espère que les Africains se réveilleront et que peut-être l'une des équipes africaines, le Cameroun ou bien la Côte d'Ivoire, pourra remporter l'épreuve.
Eh bien, merci beaucoup Joël Wadem, sur la route du Grand Prix Chantal Biya. Merci pour tout le travail accompli et cette journée éprouvante à tout point de vue.
Et merci à Frédéric Suto. Une pensée, bien sûr, ce soir pour tous les coureurs touchés, leurs familles. Et un coucou amical à Joël Wadem qui a fait, comme d'habitude, du super boulot. Retour au terrain, au sport, à proprement parler, direction l'Europe et l'Espagne en particulier, où se déroulait ce samedi soir le derby madrilène. On parle foot, évidemment. Le Real, pas en grande forme, accueillait l'Atlético, lui en net regain de forme. Bonsoir Pierre Chaperon.
Bonsoir Olivier.
Le Real et l'Atlético se séparent bons amis, vu qu'il n'y a eu ni vainqueur ni but.
Oui, il n'a manqué que des buts, en fait. Pourtant, il y avait le parfum des grands matchs. Les alentours de Bernabeu étaient bondés 1h30 avant la rencontre pour attendre le quart des joueurs. C'est une habitude que l'on voit d'habitude en Ligue des Champions. Le temps était bon, l'été s'étire ici à Madrid. Il y a eu des belles occasions. Les plus belles sont à mettre à l'actif de l'Atlético par Griezmann et Diego Costa qui ont raté leur face-à-face contre Thibaut Courtois. Le meilleur gardien FIFA de l'année qui a réalisé un très bon match très sérieux ce soir et de ce qui ressort de la zone mixte où je suis actuellement ce soir, c'est que ça a été surtout une bataille tactique. Côté supporters, on regrette, et ils sont d'ailleurs unanimes, les supporters du Real Madrid, le manque de tranchant d'un Benzema, le Lyonnais sifflé, voire conspué par ses supporters lors de son remplacement en fin de partie. Le Real qui n'a plus gagné à domicile en championnat contre les Colchoneros depuis 2012.
Le Real qui ne va pas très bien, Pierre, en ce moment.
On vient quand même de passer une semaine au Real avec une victoire étriquée contre l'Espagnol, 1-0, mais surtout une lourde défaite à Séville en milieu de semaine, 3-0, où les madrilènes ont été totalement asphyxiés. Un match à oublier. Puis ce soir, ce nul où le Real aura joué à se faire peur. Les grosses occasions, c'est l'Atlético. En fait, Olivier, depuis la superbe victoire contre la Roma en Ligue des Champions, on a du mal à revoir ce Real Madrid-là. Comme si la machine s'était grippée. Même si tout n'est pas à jeter, un joueur comme Ceballos, le numéro 24 merengue, a beaucoup plu aux journalistes espagnols ce soir. À noter que Bale s'est encore blessé. Et ça, c'est une grosse tuile, Olivier, parce que le club doit déjà se passer de Marcelo et de Isco pour plusieurs semaines. Pour le Gallois, selon Marca, et c'est confirmé d'ailleurs à l'instant par le club, il souffrirait de l'adducteur droit. Une information, c'est donc l'information ce soir, Bale est blessé.
Il y avait pourtant un bon coup à jouer pour les madrilènes en tête, hein.
Bah oui, oui, puisque cet après-midi, le Barça a continué sa série de matchs sans victoire, avec un nul à domicile contre Bilbao, un partout. Donc, une victoire du Real aurait permis au club de passer devant et être seul leader, mais les Merengues suivent les Catalans à la trace, statu quo au classement. Le Barça et le Real sont à égalité avec 14 points. L'Atlético est quatrième, 12 points, passé par Séville, troisième, qui a gagné 3-1 sur la pelouse d'Eibar et qui compte 13 unités, championnat.
Bref, on a donc assisté, Pierre, si on se résume, à un derby à l'ancienne, très heurté, avec beaucoup de fautes, avec un duel qui nous intéresse en France, Varane-Griezmann.
Oui, un duel qui a eu lieu pendant toute la rencontre, puisque le numéro 7 français était souvent dans la même zone que le numéro 5 merengue. Griezou qui a pris de vitesse son compagnon champion du monde, c'était à la 18e minute, face à face perdu face à Courtois. J'ai un peu fait le tour des journalistes avant l'émission. Tous les journalistes présents à cette rencontre, ils m'ont tous dit on n'a pas vu le meilleur Varane ce soir, souvent pris de vitesse par ses adversaires, notamment sur les passes en profondeur, et plusieurs fois aussi par Griezmann. Pas d'incident ce soir, heureusement, pour l'ancien Lensois.
Un mot très court quand même sur Luka Modric, élu meilleur joueur de la FIFA lundi dernier.
Il a eu des occasions, Olivier, notamment celle à l'heure de jeu, une frappe à l'entrée de la surface qui est passée à droite des cages de Oblak, mais un Modric sur courant alternatif, un peu à l'image du milieu de terrain du Real, un peu dans le dur lors des 30 dernières minutes de la première mi-temps. Et puis, c'est un peu réveillé en seconde, pas la meilleure prestation du Croate.
Merci Pierre Chaperon, bonne fin de soirée du côté de Madrid, bonne zone mixte, on l'entend derrière vous, et à très vite.
Mondial Sport sur RFI.
On file en Angleterre à présent avec également une très belle affiche pour la 7e journée de Premier League. Chelsea, deuxième et invaincu, recevait Liverpool, leader invaincu également, qui ne comptait même que des victoires jusqu'ici. Bonsoir Bruno Constant.
Bonsoir Olivier.
À quel match a-t-on assisté, Bruno, en fin d'après-midi, des dingos et du grand foot?
Oui, c'était vraiment un grand match entre deux belles équipes et une intensité folle, notamment en première période. On a longtemps cru que Chelsea allait infliger sa première défaite de la saison à Liverpool, que Chelsea allait devenir la bête noire même de Liverpool en signant son troisième succès consécutif face à ses Reds. Chelsea était solide défensivement, solidaire collectivement et plus efficace offensivement grâce à Eden Hazard des grands jours. Le système a changé à Chelsea du 3-4-3 au 4-3-3, mais il y a quand même un peu d'Antonio Conte, celui de 2016-2017, sacré champion d'Angleterre, dans le Chelsea de Sarri, qui fait le dos rond, qui souffre, mais ne rompt pas ou difficilement. David Luiz et Rudiger ont été énormes en défense. Kepa, leur gardien, était précieux derrière eux. Hazard était magnifique. Mais voilà, ces trios offensifs, Mané, Firmino, Salah, a perdu un peu de sa magie en ce début de saison, et surtout l'Égyptien. Liverpool peut compter depuis le début de saison sur un invité surprise, Daniel Sturridge, déjà buteur face au PSG en Ligue des Champions, et super sub aujourd'hui à Stamford Bridge, le stade qu'il a vu éclore. Une frappe magnifique enroulée du pied gauche des 25 mètres dans la lucarne opposée de Kepa, cette fois impuissant. Un score logique, admis Maurizio Sarri, l'entraîneur des Blues, fair play. Dans Liverpool a dominé cette rencontre au point. Liverpool n'est donc pas tombé. Liverpool reste invaincu, même si la formation de Jurgen Klopp a cédé la tête du championnat à Manchester City, à la différence de but, City vainqueur de Brighton dans l'après-midi. Mais désormais, on voit clairement se dessiner les trois candidats les plus sérieux au titre.
Alors un homme dans ce match, Bruno, Eden Hazard évidemment, au top, on le savait, il avait déjà été au top lors de la Coupe du Monde, entame cette saison à 1000 à l'heure.
Oui, on a l'impression qu'il n'a pas pris de vacances, qu'il a enchaîné avec sa belle Coupe du Monde. On parle que de lui en Angleterre. Il est en train de devenir ce qu'on lui a longtemps reproché, être un homme des grands matchs et un buteur. Déjà son 7e but en 8 apparitions cette saison. Sarri, son entraîneur, pense d'ailleurs qu'il peut atteindre la barre des 40 réalisations cette saison. Et si c'est le cas, Chelsea sera pas loin du titre.
City en tête, donc, à la différence de but, vous l'avez dit, aux dépens des Reds, à deux longueurs du duo Chelsea, à 4. Tottenham et Arsenal, vainqueurs tous les deux 2-0 cet après-midi, à Huddersfield pour les Spurs, face à Watford pour les Gunners, ça a été quand même compliqué pour eux. Bien plus loin dans ce classement, le dernier membre du Big Five, en tout cas on l'appelait ainsi, Manchester United, seulement 10e après une nouvelle défaite, 3-1 à West Ham, au terme d'une semaine catastrophique, ou presque, un Bruno, sur fond de querelle Pogba-Mourinho.
Oui, une défaite 3-1 au bout d'une semaine sous tension. On en avait déjà parlé mardi avec Olivier dans Radio Foot de ces propos de Paul Pogba qui avait dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas dans le vestiaire et que de nombreux supporters, pour ne pas dire la majorité, réclament de leur équipe, c'est-à-dire du jeu, une équipe qui attaque son adversaire pied au plancher. C'est l'ADN de Manchester United. Et on est souvent déçu avec l'équipe de José Mourinho, frileuse, défensive, conservatrice, négative. Mais évidemment, ces déclarations n'ont pas plu au Special One, qui a retiré le titre de vice-capitaine de l'équipe aux Français, en déclarant « personne n'est plus grand que Manchester United », même si Mourinho peine à admettre que son vestiaire se fissure de toutes parts. On savait qu'il y avait de la friture sur la ligne entre ces deux-là depuis un an. On sait que Pogba a demandé à partir à ses dirigeants au mois d'août. Et on en a eu la preuve, une fois de plus, en voyant un échange d'une froideur glaciale entre le manager et son joueur, mercredi à l'entraînement, une scène surréaliste sous l'œil des caméras de Sky. On était au lendemain de l'élimination de Manchester United en Coupe de la Ligue, sur sa pelouse d'Old Trafford, face à une formation de D2 anglaise, le Derby County de Frank Lampard. Trois jours après y avoir déjà concédé le nul face à Wolverhampton en championnat. Et puis cet après-midi, ce revers sur le terrain de West Ham, 17e avant cette journée, une seule victoire qui courait après son premier succès à domicile. Mourinho avait laissé Alexis Sanchez décevant en tribune. Il avait titularisé le Français Anthony Martial et avait fait un drôle de choix en optant pour une défense à 3 où le jeune McTominay, milieu de terrain de métier, dépannait. Et ben rien, absolument rien n'est allé dans le sens de Mourinho et de ses joueurs. Il y avait hors-jeu sur le premier but d'Anderson, concédé après seulement 5 minutes, tandis que c'est son défenseur Lindelof qui a dévié la frappe de Yarmolenko sur le deuxième but. Rashford a bien réduit l'écart pour quelques minutes seulement, puisqu'Arnautovic enfonçait un peu plus Manchester dans la crise. Défaite 3-1 donc. À 2-0 et 20 minutes à jouer, Mourinho avait même décidé de remplacer Martial et Pogba, ce qui en dit long sur le peu de confiance qu'accorde l'entraîneur aux deux Français. Et puis après la rencontre, Mourinho, qui a taclé Martial, a tenté de justifier son choix de McTominay en défense centrale en déclarant qu'il avait été le meilleur mancunien. Personne n'était dupe au sujet d'un joueur qui n'était pas à son poste et qui fut impliqué sur les deux buts concédés par son équipe. Voilà, Mourinho tout craché, qui tente de défendre l'indéfendable quand tout semble l'accuser et l'acculer dans les cordes. Pour rappel, Manchester United compte déjà 3 défaites après cette journée, comme le Chelsea de Mourinho en 2015-2016. Autre point commun, c'est la 3e saison du Special One qui avait été limogé à Chelsea un peu plus tard dans la saison.
Merci Bruno Constant et à très vite dans Radio Foot, notamment ailleurs en Europe. Nous reviendrons demain avec Matteo Cioffi sur ce qui s'est passé en Serie A. Mais côté résultat, ça donne ça pour le moment. La Juventus de Turin a battu Naples 3-1 cet après-midi. Ronaldo excellent, n'a pas marqué. Mandzukic a signé un doublé. 6 points d'avance en tête pour les Bianconeri devant le Napoli. Sachez encore que le derby romain est revenu à la Roma. 3-1 au dépens de la Lazio. En Allemagne, le Bayern, battu vendredi au Hertha Berlin, n'est plus leader, devancé d'un point par Dortmund, vainqueur 4-2 au Bayern Leverkusen après avoir été mené 2-0. Enfin en Ligue 1, le grand 8 pour Paris qui, grâce à un doublé de Neymar, a dominé Nice à Nice 3-0. 8 victoires en 8 matchs pour le PSG qui caracole en tête, 9 points d'avance sur Saint-Etienne 2e et 10 sur Lyon 3e, tenu en échec à domicile 1-1 par Nantes. S'il y a un vainqueur entre Lille et Marseille ce dimanche, il prendra la 2e place au vert.
Modèle Sport sur RFI.
Une mise au vert à présent, direction les Greens de Saint-Quentin en Yvelines, près de Paris, pour la 2e journée de la Ryder Cup, cette compétition de golf, vous le savez, par équipe entre Européens et Américains, à l'ambiance si particulière, digne parfois d'un stade de football. On retrouve là-bas Christophe Diremzian. Bonsoir, monsieur Diremzian.
Bonsoir, Olivier.
Ambiance qui contribue apparemment à galvaniser les Européens, puisqu'ils mènent ce soir 10 victoires à 6, Christophe.
Eh oui, encore une sacrée journée pour l'équipe du Vieux Continent, toujours le vent en poupe après ses bons résultats cet après-midi. Deux succès lors des doubles baptisés foursomes, cette formule où les joueurs d'un duo jouent alternativement la même balle pour atteindre le trou. Ce matin, la série des doubles 4 balles, cette fois où là chaque golfeur joue sa propre balle, leur avait déjà rapporté 3 points supplémentaires. Une paire a notamment fait sensation toute cette journée, paire formée par l'Italien Francesco Molinari, vainqueur de 2 gros tournois du circuit cette saison, et de l'Anglais Tommy Fleetwood, novice pourtant en Ryder Cup, vainqueur l'an passé de l'Open de France sur ce golf national. 4 matchs en 2 jours, 4 victoires, dont 3 contre la légende Tiger Woods. La démonstration d'une grande complicité entre les deux hommes, explique Grégory Avray. C'est l'un des assistants du capitaine européen Thomas Bjorn.
Il y a une très belle entente entre eux, non seulement parce qu'ils s'entendent bien, mais parce qu'ils jouent très très bien aussi. Ces deux mecs-là, cette semaine, c'est assez monstrueux, 4 sur 4. Et puis ils ont battu 3 fois Tiger Woods quand même, donc c'est pas rien. Alors après, là, mon sens, pas eu beaucoup de chance de jouer contre justement ces deux Européens qui sont très en forme. Et encore une fois, je pense que le jeu de Molinari et Fleetwood colle particulièrement au golf national. Ils ont d'ailleurs tous les deux gagné l'Open de France. C'était pas une mince affaire, mais quand même ramener 0 points face à eux, c'est pas bon, voilà.
Grégory Avray, l'un des assistants du capitaine européen Thomas Bjorn. Tiger Woods, Christophe Diremzian, méconnaissable donc pour l'instant dans cette Ryder Cup qui ne lui réussit décidément pas.
Non, vraiment pas, pas en forme. Le Tigre âgé de 42 ans, peut-être le contre-coup de l'euphorie après sa première victoire dans un tournoi depuis 5 ans, c'était le week-end dernier à Atlanta, pas vraiment aidé non plus par la qualité de jeu de ses deux partenaires du week-end, Patrick Reed et le novice Bryson DeChambeau. Et c'est un Tiger Woods à la fois agacé, mais aussi fataliste qui a avoué sa déception.
Je me sens bien, mais je suis juste un peu énervé d'avoir perdu 3 matchs. Je n'ai pas l'impression d'avoir mal joué, mais c'est ce qui est frustrant en match play. Je peux bien jouer, mais rien ne se passe. En plus, on a joué contre deux gars qui étaient très bons. Quand l'un était un petit peu loin, l'autre faisait un birdie, et vice-versa. Ils nous en ont fait voir. C'est la règle du match play.
Voilà, Tiger Woods, dont les statistiques dans cette compétition ne s'arrangent pas sur ses doubles de Ryder Cup. 19 défaites désormais en 29 matchs.
Dernière occasion, Christophe, pour lui d'aider l'équipe. Les simples, décisifs, hein, évidemment, ce dimanche.
Oui, on rappelle le principe. La Ryder Cup reviendra à l'équipe qui obtiendra au moins 14 points et demi, car à 14 points partout, il y aura égalité parfaite. Et dans ce cas-là, les USA garderont leur titre. Les simples de ce dimanche attribuent 12 points, car là, toute l'équipe joue et compte tenu du score actuel, le capitaine américain Jim Furyk n'avait guère le choix pour l'ordre des concurrents qu'il détermine lui-même. Il devait forcément envoyer du lourd d'entrée de jeu pour lancer cette possible remontada, comme l'explique Christophe Munieza. Il est le directeur technique national du golf français.
Ce que va aller chercher Jim Furyk en français dans le texte, c'est le momentum, l'élan. C'est ce qui avait fait le succès de cette équipe de Brookline qui, en 99, avait réussi d'entrer à faire douter l'équipe européenne en allant chercher des points capitaux et les joueurs européens qui à l'époque avaient trébuché dans les premiers simples. C'est ce que va chercher à faire Furyk dans une Ryder Cup. En général, quand c'est assez serré, on sort deux stars au début sur les deux premiers matchs et on en garde un peu sous le pied à la fin en gardant 2-3 stars pour aller clouer le bec à l'équipe adverse. Là, Furyk n'a plus le choix, il doit sortir l'artillerie lourde d'entrée, Woods et évidemment Dustin Johnson.
Dustin Johnson, c'est le numéro 1 mondial actuel, mais ce n'est pas lui qui disputera le premier match à partir de 10h05 temps universel, c'est Justin Thomas opposé au Nord-Irlandais Rory McIlroy. Tiger Woods, lui, disputera le quatrième match face à l'Espagnol John Rahm.
Merci Christophe Diremzian, rendez-vous ce dimanche bien sûr pour le dénouement de cette Ryder Cup. Du judo pour terminer ce mondial sport. Il y a 8 jours, Clarisse Agbenienou décrochait à Bakou avec brio sa 3e couronne mondiale après celle de 2014 et de 2017, catégorie moins de 63 kilos. À 25 ans, la Parisienne, née à Rennes de parents togolais, est en train de se bâtir l'un des plus beaux palmarès du judo au tricolore, voire mondial. Invaincue cette année après 17 combats, Clarisse met le cap à présent sur les Jeux de Tokyo en 2020, même s'il y aura avant d'autres mondiaux. La jeune femme place l'or olympique au-dessus de tout. De retour d'Azerbaïdjan hier et avant des vacances à Kampala en Ouganda. Et oui, elle est passée nous voir cet après-midi à RFI. Et autant vous le dire, nous avons passé un très bon moment. Je vous propose d'en juger par vous-même. Clarisse Agbenienou qui revient d'abord sur ce titre mondial 2018.
C'est vrai que c'est pas rien et que c'est beaucoup de travail. Et je me rends compte, et là, en m'asseyant, en faisant un peu autre chose, que mon corps est fatigué, que c'est vrai que je me suis beaucoup entraînée, qu'on a fait 3 mois d'entraînement intensif. Et du coup, là, je me dis, il me faut beaucoup de repos, mais des fois, je m'allonge et je me dis, je suis fière de moi quand même.
Bah oui, il faut être fière de soi. 3 titres de championne du monde plus 2 médailles d'argent, vous êtes la Française la plus titrée dans des championnats du monde. Ça n'est pas rien.
Non, ça n'est pas rien et je compte pas m'arrêter là. Il faut que j'en donne encore plus, il faut que j'aille chercher encore plus. Je sais que je peux le faire, je vais m'entraîner pour. Et attends, il me faut quand même aussi l'or olympique et je peux encore être 4 fois championne du monde avant tout ça. Donc... je vais aller chercher.
Vous avez 25 ans, vous avez des tas d'années devant vous.
Oui, non, ça c'est sûr, mais il faut faire une petite pause après, parce que c'est vrai que le corps, il prend beaucoup, qu'on laisse un petit peu nos familles, nos amis, un peu de côté, donc il faut aussi leur laisser un petit peu la place dans la vie.
Bakou restera forcément un excellent souvenir. Vous êtes championne du monde, 5 hippons, 5 combats, tout le monde capote.
Oui, c'est vrai, je n'avais pas réalisé. C'est pour ça il faut que je regarde mes combats parce que des fois j'étais tellement concentrée, focus et je savais pas du tout en fait je passais mes combats mais pour moi c'était allez, tu en passes un, tu passes le prochain, tu vas pour l'autre et j'ai même pas réalisé que j'avais marqué tout ça 10 ponts, enfin j'avais tout marqué. Et non, c'est bien de se poser, de regarder, de voir un petit peu l'accomplissement de toutes ces choses.
C'est un accomplissement. Vous vous entraînez à l'INSEP, vous êtes gendarme au quotidien.
C'est ça Pas au quotidien, parce que je suis judoka au
officiellement,
quotidien.
En tout cas.
Voilà, mais sinon, oui, je suis gendarme, donc je suis dans l'armée des champions. Je les remercie vraiment pour l'aide, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué quand on fait du judo, donc d'avoir des gens qui nous soutiennent comme ça, donc avec la gendarmerie, les sponsors de mon club, Adidas, je les remercie vraiment, en tout cas, de nous soutenir à chaque fois. Pour moi, je m'entraîne tous les jours, deux fois par jour. Je peux pas aller travailler. J'essaye de faire un petit peu des études à côté. C'est vraiment avec un temps minime. Donc
vous faites des études de quoi?
J'ai fait l'année dernière des études pour être entraîneur national, donc j'ai eu mon DES JEPS et j'ai aussi mon BPJEPS judo et j'aimerais faire plus. Et c'est vrai qu'il faut trouver un peu de temps là. C'est vrai que je voulais commencer quelque chose là en début d'année, mais l'année a déjà commencé. Nous, nos championnats du monde étaient en fin d'année, mais les années courtes commençaient. Et du coup, j'ai dû me dire bon, j'attends un petit peu de voir si après les championnats du monde, si je peux trouver une école. Mais c'est vrai que tout a commencé et c'est compliqué. Mais je vais essayer un petit peu de forcer.
C'est compliqué de se remotiver. Vous avez une locomotive dans le judo français qui s'appelle Teddy Riner. On vous appelle la Teddy Riner au féminin. Et pour tout dire à nos auditeurs, quelques secondes avant le début de cette interview, vous échangez avec lui. Vous étiez en train de vous moquer hein, d'ailleurs, non?
Oui, j'ai échangé un petit peu avec lui parce que du coup... il est pas venu pour ma compétition, mais voilà, il a beaucoup de choses à faire. Et après, je lui disais merci parce que ce matin, j'étais à Beansport et je lui disais merci d'avoir fait une belle vidéo pour moi et que ça me touchait vraiment.
Vous en êtes à 3 titres, il en a 10.
Exactement. Bon, bah, je sais pas si je vais le rattraper, mais j'espère arriver très, très proche de lui.
Très, très proche de lui. L'objectif, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est bien sûr l'or olympique. Vous êtes médaillé d'argent à Rio en 2016. Il vous faut l'or à Tokyo, au pays du judo.
Exactement, au pays du judo, ça serait, enfin, c'est la médaille que je vais mettre en vitrine. C'est elle va être magnifique. En plus, aller titiller les Japonais là-bas, je pense que, enfin, avoir ça pour eux, ils vont avoir une tête qui va exploser.
On est sur RFI. Vous savez que les 3/4 des gens qui nous écoutent dans le monde sont en Afrique.
Exactement.
Et il m'est dit que vous avez des racines africaines très très marquées, des parents togolais.
C'est ça, togolaise.
Est-ce que vous avez un lien encore avec le Togo? Est-ce que vous y allez? Est-ce que développer le judo en Afrique? Est-ce que lier votre sport et vos origines, c'est quelque chose qui vous travaille, qui vous passe par la tête?
Oui, bien sûr, surtout que quand j'étais jeune, j'y allais tous les ans. Et après avec le judo.
Quand
du
vous
coup,
étiez jeune, vous avez 25 ans, n'exagérez rien.
Bon, on va dire quand à l'âge de ma naissance à 13 ans, le temps et après avec le judo à cause du judo, on va dire que je n'ai pas eu du coup de vacances d'été. C'était fini les 2 mois d'été, donc j'ai dû aller en stage et je pouvais plus aller en Afrique. Et j'ai coupé. J'avais 10 ans que j'avais pas été. J'ai coupé après les Jeux. J'y suis retournée parce que j'ai encore de la famille, mes cousins, mes cousines, et ils étaient super contents pour moi. Et j'ai été reçue d'ailleurs par le président. Ça m'a fait chaud au cœur de voir que il y a toutes ces personnes qui sont derrière moi et je les remercie vraiment et de voir qu'ils connaissent le judo. Et j'espère, j'avais entendu qu'il y avait les Combat Games là-bas et j'espère pouvoir aller voir et mettre en place quelques petites choses.
Il y a de bons judokas en Afrique du Nord on le sait, mais en Afrique de l'Ouest ça vient, le judo c'est un sport que tout le monde peut pratiquer. Il faut
exactement
juste avoir les bons enseignants.
Exactement, là au championnat du monde il y avait pas mal de pays africains et ça m'a fait chaud au cœur. Et j'espère vraiment que je verrai avec le temps, mais que plus d'entraîneurs, de bons entraîneurs, parce qu'il y a vraiment de bons produits, ils ont des bonnes qualités, mais il faut qu'ils s'entraînent de façon bien précise. Et on verra avec le temps nous dira ce qui peut se passer là-bas.
Mais l'Afrique est importante, elle est dans votre cœur bien sûr.
Exactement.
Merci de nous avoir rendu visite sur RFI, on était ravis d'avoir une championne du monde dans nos murs.
Mais merci beaucoup.
Merci à vous Clarisse, et rendez-vous à Tokyo 2020.
Et bien sûr.
On sera là.
Il faut être là.
Comme elle est sympa cette Clarisse Agbenié, nous, championne du monde de judo. Un dernier résultat, c'est le mondial de basket. Les Françaises, au lendemain de leur élimination en quart de finale des championnats du monde par la Belgique, eh bien, elles se sont rattrapées en match de classement. Elles ont dominé les Nigérianes 84 à 62 et joueront ce dimanche eh bien, pour la 5e place. Mondial Sport, bah, c'est fini, dites donc, il est l'heure. Merci à Valentin Vaner. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. D'ici là, bah, portez-vous bien.